quello che mi manca di me. Voilà, c'est une réalité qui dit ceci. Il est interdit à l'homme d'avoir jouissance de ce monde-ci, ça veut dire de quoi que ce soit dans ce monde-ci, sans dire de bracha. Et tout celui qui a jouissance de ce monde-ci, sans dire de bracha, est appelé Maal. Maal, ça veut dire celui qui commet une mauvaise action. Une action de, on pourrait dire, de vol, Maal. D'avoir trompé quelqu'un en lui prenant quelque chose au cul. Et on pourrait dire les déprédateurs. Mais il y a une autre qui dit qu'il est Noël Bakodashim. On va y aller. Maïté Kanté, comment on peut faire le tikkun de cela? C'est-à-dire, comment on peut arranger ça? Yedef etzel Chacham, il faut qu'il aille chez un Chacham. Yedef etzel Chacham, il aille chez un Chacham. Maïavid, qu'est-ce qu'il peut lui faire? S'il a déjà mangé sans bracha, qu'est-ce qu'il peut arranger? Non. La réponse est. Et là, Amar Rabba enseigne, Yedef etzel Chacham et Ikara. Avant d'utiliser le monde, il doit aller chez un Chacham. Et il a mis nous brachot. Et il doit lui enseigner les brachot. Kedeshelo Yavo, du Demeila, afin de ne pas risquer d'arriver à cette mauvaise action qui consiste à prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Et vous voyez quelle est la définition de la Chokma? Connaître les brachot. Ça peut vous paraître bizarre. On ne nous a pas dit que le Chacham, c'est celui qui connaît la théologie. Mais c'est celui qui connaît les brachot. Et je vais ajouter une nuance. Celui qui est capable de diagnostiquer, ça c'est une bracha, ça c'est pas une bracha. C'est ça la chokma. Vous avez compris? Par exemple, on ne met pas une mezouza sur une maison dont on sait qu'elle va s'écrouler. On ne dit pas une bracha sur une pomme dont on sait qu'il y a un verre dedans. C'est-à-dire, on diagnostique qu'est-ce qui, dans la réalité du monde, est bracha ou pas bracha. C'est ça la chokma du hakam, c'est où il doit aller pour savoir où sont les brachas.
Voilà, alors, il y a
la apparaît quand il y a une naissance. Les très joli. Et c'est pourquoi la Gemara nous enseigne que les femmes sont capables, plus que les hommes, d'être prophètes. Parce que c'est elle, la sage-femme. Mais non, c'est pas une blague. C'est elle qui est roi et tanola. Non, on l'apprend par exemple dans la paracha qu'on a vue à propos de Sarah et Abraham.
La raison pour laquelle c'est dans les communautés sarades on fait beaucoup de brachot sur les pirkot aléim des Shabbat, est-ce que c'est parce que c'est presque que seulement le Shabbat qu'on peut sentir la bracha justement?
Ça, c'est une raison qu'on peut ajouter. Il y a une raison légale, c'est que le Shabbat on dit moins de brachot parce que le Shmoné Esrei du Shabbat a moins de brachot. Et comme on a d'autre part un principe qu'il faut dire au moins 100 brachot par jour, alors on les ajoute. Mais ce que tu as dit, c'est valable. Ma Hashem et le Kachash et Mimecha, Altikre Ma et la Mea. Il y a ma part. Je connaissais la réponse, mais je ne l'entendais. La ma mère. Bon, d'abord, il y a le bracha, il y a ce bracha. Tu ne fais non, c'est. J'ai compris ta question. C'est bracha. Qu'est-ce qu'on fait dans la Amida? On demande que Dieu nous donne des bracha. Da'at, tshuva, sikha, papa. On demande que Dieu nous donne des bracha. Tout ce qu'on demande dans la tfila sont des choses que la nature ne peut pas nous donner, qu'aucun travail ne peut nous faire obtenir. C'est une bracha. Par exemple, on ne demande pas que Dieu nous donne du pain. On demande à Dieu de donner l'abondance dans la récolte. Le pain, on le travaille. Maintenant, chassidut, quelque chose de plus profond, que ce soit toi qui me donnes mon pain. Ça, c'est chassidut. Okay. Au niveau de la halakha, le pain est objet de travail. Qu'est-ce qui est objet de tfila, de prière? Le goût du pain. La bracha l'encontre. Lorsqu'on, même si on prend un peu de temps, il faut s'habituer à cela. Le fait que les aliments ne soient pas que des aliments, je ne sais pas comment dire, des glucides, des lipides, des hydrates de carbone, ce que vous voulez, mais qu'en plus, ils aient un goût. C'est ça la bracha. Et c'est un mystère, mais on est tellement familier à cela. Rappelez-vous la rose de la planète, là-bas, le petit prince, qu'on ne se rend plus compte. Alors ce n'est que quand on est privé de ça qu'on se rend compte ce qui manque. Vous savez, c'est une règle de l'existence. Tant qu'on dispose de quelque chose, on ne se rend pas compte de quoi on dispose. Quand on est privé, on s'en rend compte. C'est clair ? Alors la reconnaissance, c'est quand on s'en rend compte. Alors on le dit. C'est clair ? On pourrait se demander, mais pourquoi ? Tous les jours, il faut dire à Dieu qu'on aime. Mais quand on aime, on le dit tous les jours, toutes les heures. Sinon, ça manque. D'accord ? Alors, à la suite, il y a un deuxième enseignement. « Amarch Mouel, kola nehene mina olamaze, lo bracha keilu nehena mikotche shamaim. » C'est ça que je voulais dire. Celui qui a jouissance de ce monde-ci sans bracha, c'est comme s'il s'appropriait les sacrifices qu'on offrait à Dieu. Le kodashim, hein, je résume, c'est beaucoup plus ample que ça, mais vous comprenez. « Shenema, lachem haaretz umloa. » Parce qu'il y a un verset qui dit, c'est à Dieu qu'appartient à la terre et tout ce qui la remplit. Donc ce n'est pas à moi, c'est Hekdesh, cadeau. Vous voyez comment ça se relie à notre sujet ? C'est clair. Hein ? Alors, Rabbi Levi objecte, Ktiv, Lachem, Aret, Unnoa, Urtiv, Ashamaim, Shamaim, Lachem, Aret, Tintan, Nibna, Adam. Mais pourtant, il y a un autre verset, que les cieux sont les cieux pour Dieu et la terre, il l'a donnée aux enfants des hommes. Réponse, il n'y a pas de contradiction. Dans un cas, c'est avant de dire la bracha, tout appartient à Dieu. Dans l'autre cas, c'est après avoir dit la bracha, tu peux prendre ce qu'il y a sur la terre. Vous avez compris l'idée ? Bon, alors on peut refermer la parenthèse. Et j'espère que vous avez senti par vous-même à quel point c'est un comportement spirituel qui est opposé à celui des païens. Quand le païen dit, pas la bracha de remerciement, qu'on trouve surtout chez les protestants, qu'on remercie Dieu du pain qu'il nous a donné, ça ressemble à la bénédiction de Dieu. Mais quand le païen catholique fait ses histoires, ses simagrées sur l'hostie, et qu'il appelle, c'était un pain privé de vie, azim, ils disent. Mais maintenant qu'on a vu la formule magique, la vie est dedans, c'est du paganisme. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Ça veut dire au fond, le pain béni, c'est le bon pain. Le pain qui est béni, c'est celui-là qui est béni. S'il était suffisamment clair. Alors vous voyez, il faut bien faire attention, il y a des conduites de piété élémentaires qui risquent de frôler ça. J'ai souvent vu quand, il y a un rab qui a fait la bracha de la motzi, alors tout le monde se jette sur le pain béni. Bon, il y a autre chose là-dedans, mais ça risque de tomber là-dedans. Vous avez compris ce que je dis ? Parce que c'est un grand privilège de manger du pain du rab. C'est la chassidoute a élargi cela. C'est un privilège de manger de la nourriture qui nourrit cette neshama-là. Mais considérer ça comme du pain béni à la manière d'égoïme, il faut se méfier. Alors je crois que nous avons vu l'essentiel. Et s'il n'y a pas de questions, vous avez compris que ça veut dire vaibarer, c'est un verbe transitif. Il a rendu le monde béni, il y a mis la bracha, et après seulement, vaikadesh. Il y a eu des populations anciennes, j'ai étudié ça surtout chez les Phéniciens, qui avaient des jours qui ressemblaient à notre Shabbat. Alors chez les Phéniciens, ça s'appelait Sabbatou, moi je le causais. Et il y a beaucoup d'historiens de religion qui disent, vous voyez, les Juifs ont pris ça des Phéniciens. Mais chez les Phéniciens, c'était un jour maudit. Pourquoi ? Eh bien parce que... Non, parce qu'ils pratiquaient la cessation d'utilisation du monde sans diagnostiquer la bracha, alors c'était un jour d'ennui mortel. Vous savez, ça arrive à certains juifs. On fait rien et on s'ennuie. Et ils ont oublié l'aspect de bracha. Il n'y a pas que des mitzvot lotar assez le Shabbat. Il y a les mitzvot assez. Et si on ne fait pas les mitzvot assez, alors on s'ennuie. Et c'est un jour d'ennui mortel, comme chez les Phéniciens. Vous avez compris ce que je veux dire ? Et c'est clair, c'est... Non, mais au contraire, c'est le jour de vie, parce que c'est le jour où on est disponible pour vivre. Et que ça veut dire vivre ? Lisez le livre de Kohel. Ça veut dire bien manger, bien boire, bien chanter, et bien étudier, et bien prier. C'est ça, la vie, bien. Et pas perdre son temps au métier, qui ne serait pas une vocation. Il faut plaindre ceux qui sont obligés de gagner leur vie avec des métiers qui ne sont pas des vocations. Ils s'ennuient. Par exemple, je connais des gens très, très dignes, très respectables, qui ont le courage de considérer ce qu'ils font comme une vocation. Par exemple, ils gagnent leur vie en faisant des additions, des soustractions, des multiplications toute la journée, des comptables. Et après, on leur donne de l'argent, ils vont à la macolette acheter des fruits. Mais les fruits, ça se prend sur l'arbre. Ça se prend pas en faisant des additions. Vous voyez à quel point nous vivons une vie artificielle. C'est ça que je voulais mettre. Alors bien sûr, il faut des comptables pour que la société marche. Mais c'est pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le Shabbat. Au moins le Shabbat, le comptable, il ne va pas à l'usine. Et il peut vivre. Vous avez compris le fait. Alors, vous comprenez bien ce qui arrive à ces Phéniciens du jour maudit qu'ils consacraient à la planète Saturne, etc. Donc, voilà, je vais vous montrer peut-être une petite allusion dans la manière dont nous disons le kiddush du vendredi soir. Vous avez remarqué que quand nous disons le kiddush du vendredi soir, nous ne commençons pas à Vaïchoulou Hashamaï, mon premier verset, mais on commence à la fin du verset précédent. Yom Hashishi Vaïchoulou Hashamaï, etc. Vous connaissez cela? À quoi cela fait allusion? Ça fait allusion à ce que j'ai dit. Vaibarech Elokim et Yom HaShvi'i, et Dieu a béni le septième jour. Le septième jour, quand est-ce qu'il l'a béni? Le sixième. Vaikadesh Oto, et il le sanctifia, Vobayom, le septième. C'est la différence entre et Yom HaShvi'i et Osto. Bon, vous savez que vous familiarisez en elle. C'est clair? Alors nous allons voir tout de suite Rashi, qui va nous donner un commentaire qui va compléter tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc, prenez Rashi sur Vaibarech Vaikadesh. Là, en particulier, la question d'exégèse, c'est pourquoi dans cet ordre? Pourquoi d'abord Vaibarech et ensuite Vaikadesh? Ça, nous avons déjà appris suffisamment. Okay? C'est qu'il fallait d'abord la bracha pour que la kedusha puisse être donnée, sinon elle aurait été néfaste. C'est clair? Et je crois qu'on peut le formuler de la manière suivante. La vocation de sainteté doit d'abord passer par l'expérience de la bénédiction. S'il n'y a pas d'abord bénédiction, la sainteté est suspecte. C'est une sainteté triste, qui risque même d'être plus que triste, qui risque parfois d'être morbide, etc. Et il est évident que Dieu n'a pas créé un monde pour que nous soyons tristes. Et je reviendrai sur le projet de sainteté immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'a dit Rashi? Si quelqu'un à le lire en français, vous lirez, mais moi je vais vous traduire directement de l'hébreu. Quelqu'un a le Rashi en français? Bon, c'est pas grave. Alors, on va traduire directement. Beracho Beman. Il l'a béni avec la manne. Qu'est-ce que c'est que la manne? C'est pendant les 40 ans du désert, où le souci économique avait été épargné à Israël, pour qu'il puisse se préparer à la Torah, se préparer à l'histoire dans le pays de Canaan avec la Torah. Donc le souci économique était complètement mis entre parenthèses, vous connaissez ce thème, il n'y avait ni souci militaire, ni souci économique, les vêtements ne flétrissaient pas, la manne descendait du ciel, et ils étaient protégés par les Anan et Kavod, les nuages de la gloire qui empêchaient les ennemis de s'approcher. Et donc l'idée là est importante, c'est la seule société au monde qui a étudié sa constitution avant de commencer son histoire. Dans toutes les autres sociétés, il y a l'histoire qui, d'où procède une constitution a posteriori. Et alors, voilà ce que dit Rashi, en citant un midrash. Beracho Beman, il l'a béni par la manne, chez Kolie Meashavua, Yahad Laem, Omer la Dungolet, parce que chaque jour de la semaine, les six jours de la semaine, descendait une mesure de manne par habitant, je ne sais pas comment dire, Dungolet, c'est-à-dire par crâne, par tête de pipe. Et Ubashishi, mais le sixième jour, Lechem Mishne, une part double de nourriture. Ce qui est commémoré d'ailleurs par le fait que le vendredi soir, on a deux pains, pour dire la Birkat HaMossi, et ça s'appelle l'Echem Mishne, le pain double. Dans certaines communautés, aussi le Yom Tov, mais si on a la race stricte, en tout cas dans la tradition sfarade, c'est le Shabbat qui va avoir deux pains, le Yom Tov, avec un pain, on pourrait dire la Bracha, mais ça c'est des différences de rites demandés à votre rabbin chaque fois. De la même manière pour les bougies du vendredi soir, il faut deux, Yom Tov un seul. Mais il y a des communautés où même Yom Tov il y en a deux, ça, chacun son rite. Vekitsho Veman, et il l'a sanctifié par la manne, chez Lo Yarad Klal Beshabbat, puisque la manne ne tombait pas le Shabbat. Vous voyez donc quelle est l'idée? Le sixième jour, double part de Bracha, Et le septième jour, tout s'arrête. Kedusha. C'est clair. Alors, comme dit le Talmud, seul celui qui a préparé à manger le sixième jour peut manger le Shabbat. Quelle est l'idée qu'elle a, qui est très importante. Seul qui a préparé son monde à venir dans ce monde-ci aura de quoi vivre, à exister dans le monde à venir, pour prendre les deux termes, qui poserait des problèmes. Et le Rashi ajoute « Vers Mikra, Katav, Aleati ». Et ce texte a été écrit en vue d'un événement futur qui s'est passé d'Afka quand, pendant les 40 ans du passage au désert. Qu'est-ce que veut dire Rashi? C'est que c'est l'état du monde, c'est la structure du monde. Mais ça s'est dévoilé à une période exceptionnelle de l'histoire, la période de la révélation. C'est-à-dire, dans cette période des 40 ans du désert où la révélation a été donnée à Israël, s'est dévoilé ceci, que le sixième jour, le monde est béni, parce que le septième jour, il est sanctifié. Et on en a eu l'expérience par la manne. À propos de la manne, je vous signale une coutume dans toutes les communautés juives, c'est de manger le vendredi soir une nourriture sous forme de boulette. Parce que la manne était préparée sous forme de boulette. Je ne sais pas si vous savez ça. Alors chez les Sephardim, c'est des boulettes de viande. Chez les Ashkenazim, c'est des boulettes de farine de mat, parfois, ou autre chose. Mais on a remarqué, dans toutes les communautés, on a gardé cette tradition. Bien. Alors, je vais... Pardon ?
Le sixième jour, il y a une relation.
Oui. Et donc, ça veut dire que le sixième jour a été donné la bénédiction qui concerne le septième. Voilà, je veux dire qu'elle est le midrash complet. Chaque jour a sa part de bracha. Et le sixième a une part double, la sienne et celle du septième. Réfléchissez à ça. Et voilà donc ce que j'ajouterai maintenant. C'est ceci. Nous avons vu que chaque jour du commencement, il y avait un projet du Créateur. Si nous nous posons la question, et quel est le projet pour le septième jour? La réponse est, c'est le projet de sainteté pour l'homme. Et pour que l'homme puisse accéder au projet de sainteté, il faut que son monde soit béni. Nous retrouvons dans notre texte, Vaibarer, Vaikadash. Alors, ce projet de sainteté pour l'homme est formulé dans le livre de Vaikra. Du moins, on peut se servir de ce verset pour répondre à notre question. Je crois que c'est le chapitre 19, Kedoshim, la parasha de Kedoshim. Vous me donnerez la référence exacte. Ça veut dire que j'arrive pas à lire ce trop petit à Jules. Je crois le premier verset de la prochaine de Jules. Ou le deuxième verset. Doshim Tiyu, Kedoshim. D'ailleurs, c'est bien chapitre 19. Oui. Voilà, c'est le deuxième verset du chapitre 19. Kedoshim Tiyu, ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. C'est le projet de sainteté pour le septième jour. Et en fin de compte, ce projet de sainteté passe par Israël. On va faire un petit exercice d'une manière inhabituelle de lire que j'ai entendu d'un rabbin kabbaliste qui était très connu depuis très très longtemps. Puis les rabbins kabbalistes contemporains ont décidé de dévoiler des petites choses comme ça. Je pense que ça va vous intéresser. Et vous allez prendre le texte depuis Yom HaShishi, Vayechulu HaShamayim Tikel, prenez le texte. Et puis, comptez à partir de Yom, du Yud de Yom, comptez 6 lettres et notez la 7e. Quel est le mot qui apparaît? Comptez 6 lettres et notez la 7e. 6 lettres, la 7e. 6 lettres, la 7e. Vous allez voir un mot apparaître. Apparaît le mot Israël. Voilà, vous voyez. Ça veut dire que c'est Israël qui est le projet du septième jour. Alors, s'il y a des mathématiciens parmi vous, vous savez qu'il est impossible, d'après le calcul des probabilités, que ce soit seulement une coïncidence. Il faudrait trop de coïncidences pour que tous ces éléments s'accordent, ok? Voilà. Alors, je pense que maintenant, nous en avons fini avec la préface. On n'a pas tout appris ce qu'il y avait dans ce texte, bien sûr. Et à partir de la semaine prochaine, nous commencerons à étudier l'histoire de l'homme, c'est-à-dire comment la Torah met en place l'équation d'identité des problèmes de la société humaine. Alors voilà ce que je vous propose. Étant donné que les premiers chapitres traitent de la première génération d'histoire humaine, l'histoire de Adam, c'est un chapitre assez difficile parce que nous n'avons pas encore expérience de ce dont il s'agit. Nous sommes des Béné Adam. Il faut apprendre beaucoup de choses pour remonter à ce chapitre et avoir idée de qu'est-ce que c'est qu'Adam. Et alors je vous propose de commencer à la deuxième génération, c'est-à-dire commencer à explorer le chapitre 4 avec Caïn et Abel pour la semaine prochaine. Gilles, je vais te voir une minute et puis j'ai quelque chose à te dire.